Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce deuxième numéro du Milk Bars, un podcast pour des fans de Zelda, par des fans de Zelda, et qui traitera de la musique de Zelda.
Ça semble cohérent.
Tout à fait. Alors, bien évidemment, je suis accompagné de Zelink. Comment ça va, Zelink?
Ça va très bien. Et puis toi, Kondo?
Oh bah super. On est assez chaud pour ce deuxième numéro, là.
Très très chaud, très très chaud. Galvanisé par tous vos commentaires bienveillants, gentils, motivants que vous nous avez envoyés.
Ouais, on a eu des très bons retours pour ce premier épisode, on vous en remercie. Et maintenant, bon, on va tâcher de faire notre mieux pour les épisodes suivants, afin de pas vous décevoir. On a la pression, maintenant.
Toujours, toujours. Mais on essaie déjà de faire de notre mieux pour le premier, hein, cela dit.
Ouais, ouais, faut pas croire.
Hein. C'est pas parce qu'on fait de notre mieux que c'est parfait.
Bref, on a une playlist assez intéressante pour ce deuxième numéro.
Non, en tout cas, on espère que ça va vous plaire, parce que nous, en tout cas, notre playlist, elle nous plaît.
Ah oui, on l'aime beaucoup, celle-ci.
Et c'est toi qui commences, Kondo, je crois.
Oui, c'est à moi de commencer, alors installez-vous confortablement, prenez un bon verre de lait, et c'est parti pour le premier morceau, qui sera dans un style bien western.
Quelle belle manière de commencer pour nous remplir d'énergie, Kondo.
Ah bah bien sûr, un bon western c'est toujours idéal pour commencer un peu de musique. Actuellement, alors je sais pas si vous l'avez tout de suite reconnu, ça m'étonnerait un petit peu, mais il s'agissait du thème de l'Overworld de Spirit Tracks. Mais ce qu'on reconnaît davantage en revanche dans le morceau, c'est l'inspiration du western et pour quelques dollars de plus. Parce que le morceau reprend aussi le célèbre sifflement qu'on entend au début, ainsi que les trois doubles croches qu'on entend régulièrement, qui se répètent à chaque temps et qui rappellent la locomotive sur laquelle on voyage dans Spirit Tracks par ailleurs. Le morceau donc est tiré de l'extension Final Smash de l'excellent album Harmonia of Heroes. Alors on va commencer à parler de cet album. Qu'est-ce que c'est Harmonia of Heroes ? Eh bien c'est une gigantesque collaboration de musiciens qui ont repris des musiques non pas de la série Zelda mais des trois premiers Smash Bros. Smash 64, Smash Melee, Smash Brawl. Alors pour vous donner une idée de l'importance du projet, je vais vous donner quelques chiffres. L'album contient 101 morceaux, ça c'est excellent, plus de 7 heures d'écoute, ça, de pur bonheur en plus, hein, des très bons morceaux, qui ont été arrangés d'ailleurs par plus de 60 musiciens, dont la plupart sont assez connus dans le milieu.
Ouais, mais moi ça m'impressionne pas beaucoup, parce que Smash Ultimate c'est 30 heures d'écoute, et plus de 8, presque 900 morceaux. Donc franchement, ton Harmony of Heroes là, il fait un peu pas le figure maintenant.
Ah bah quand même, c'était un travail assez monstrueux, faut le reconnaître.
Non mais je rigole, ouais, bon franchement, pour un travail de fan, c'est absolument génial et très impressionnant. Aller au bout d'un projet comme ça, c'est cool.
Ah ouais, surtout qu'ils reprennent pas forcément les morceaux les plus connus de chaque jeu, prennent des pistes assez originales. D'ailleurs, en 2014, c'était la sortie de Smash 4, alors que l'album est sorti la même année. C'est pour ça qu'ils ont prévu finalement de rajouter une extension, Final Smash, qui contient 27 pistes, dont celle qu'on vient d'écouter. Hein. À noter que l'équipe en charge du projet a aussi réalisé trois autres albums, Harmony of Hunter et Harmony of a Hunter 101%, deux albums de reprise de Metroid, ainsi que Harmony of a Champion, un album sur Pokémon, pour ceux que ça intéresse. Et ce dernier est sorti il y a pas si longtemps, je l'ai pas écouté, mais personnellement j'ai beaucoup aimé les deux autres albums de Metroid. D'ailleurs avec tout ça, j'ai toujours pas parlé de l'arrangeur du morceau. Il s'agit de Sean Hyberman, et en fait j'ai pas grand chose à dire sur lui, sinon qu'il compose sur son SoundCloud, et il anime aussi un podcast audio appelé Deaths of Netflix, où il parle de films étranges et horrifiques. Bon, j'ai pas écouté parce que je suis pas très bon en anglais, mais...
Ouais, c'est chou à suivre les podcasts anglophones, je trouve.
Voilà, donc si ça vous tente, Deaths of Netflix, ça a l'air assez sympa. Ah, et puis une dernière précision, l'album et son extension sont gratuits. Alors après, bon, je prie pour qu'il y ait une nouvelle extension qui soit en préparation, parce que depuis la sortie d'Ultimate, on a eu du lourd. Donc j'espère qu'on aura un nouvel album Harmony of Heroes Ultra Final Smash, avec 40 pistes, ce serait bien, ce serait beau.
Ce serait génial. Donc moi je vais inaugurer les arrangements Zelda officiels avec mon premier morceau qui est une piste tirée de la série des Donkey Kong. Si vous êtes très moussé pendant l'écoute, c'est normal, c'est de la musique d'inspiration cubaine totalement faite pour. Donc comme introduit, il s'agissait d'un arrangement réalisé pour la série des Donkey Konga, qui est un spin-off jeu de rythme de Donkey Kong.
Avec de superbes manettes, hein, je tiens à le préciser.
Ouais, je vais y revenir plus loin. Derrière ce travail, on trouve Junko Ozawa, ou Jessam, crédité dans l'équipe son, deux compositeurs de Namco Bandai, puisque Nintendo s'est chargé de l'édition du jeu et leur a laissé le développement. Alors, Kondo, petite question pour voir si t'as bien écouté. Est-ce que tu serais capable de me citer les thèmes de Zelda repris dans le morceau, qui était donc concrètement un medley?
Je pense. Alors, il y a le thème de l'Overworld du premier Zelda, si je me souviens bien.
Effectivement, effectivement. C'est un bon début.
J'ai la pression maintenant. À la fin, il y avait le thème du départ de The Wind Waker.
Ouais, tout à fait.
Ainsi que le thème de la fontaine des fées qui apparaît dans pas mal de Zelda.
Effectivement. Donc là, t'es à 3 sur 5.
Sur 5? Oh mince. Oula. Ah oui, j'ai entendu un truc au début aussi.
Ouais.
Alors, je suis même pas sûr que ça vienne de Zelda.
Si, si.
Alors, je vais probablement dire une bêtise, mais il me semblait que ça ressemblait à un thème de boss de Mario.
Mais pas du tout.
Ah la mince. Zut.
Au tout début, il y a la fanfare de quand on obtient un objet, en fait.
Ah mais d'accord.
Tout simplement.
Pour moi, ça ressemblait beaucoup au thème des boss de Mario Bros 3. Aïe, aïe, aïe. Honte à moi.
Et du coup, la dernière, bon, celle-là, je savais qu'il n'y avait aucune chance que tu la trouves. Moi-même, j'ai dû chercher pour retrouver ce morceau.
Dis-moi tout.
C'est le thème de quand tu retombes dans ta cellule après t'être fait choper à la forteresse Monite dans The Wind Waker.
Ah oui, c'est précis ça quand même.
Mais c'est un motif qui apparaît plusieurs fois dans le jeu, par exemple. Enfin, la première fois, il me semble que c'est quand t'apprends le maniement de l'épée chez Orko au début de la musique. Et du coup, voilà, ils l'ont placé à la fin entre la musique de la fontaine des fées et le thème et la reprise du thème de l'Overworld de Zelda. Du coup là bah on est tout bon et ouais franchement c'est un excellent medley hein, sans doute un des meilleurs que je connaisse de la série, dynamique, rafraîchissant avec des thèmes super bien intégrés qui s'enchaînent comme t'as pu le voir de manière très fluide et sans qu'on le remarque forcément.
Et avec des genres assez originaux quand même hein, parce que les musiques cubaines Zelda c'est pas hyper courant non plus.
Effectivement, je trouve que c'est un morceau qui est absolument ouf. Et il me reste une chose à préciser sur cet arrangement et pour ça on va s'intéresser à la série des Donkey Konga parce que oui j'ai dit qu'il en était issu mais pas dans quel jeu exactement il était apparu. Donc le premier jeu de la série est sorti au Japon en décembre 2003, accompagné d'une manette dédiée que Kondo avait commencé à évoquer, les Bongo Dikai.
Ah, la grande classe, hein, clairement.
Malgré le titre du jeu qui est là pour le jeu de mots en fait, on ne joue donc pas avec un contrôleur en forme de conga pendant la partie, mais en forme de bongo. Et même pas totalement, puisque l'un des tambours qui compose une paire de bongo est censé être plus grand que l'autre, or ici les deux parties de l'engin sont de même taille.
Non mais Zelink... Tu comprends pas, ce sont des Bongo Decay, pas de simples bongo.
Mais effectivement, ils sont uniques, c'est un modèle très particulier. Et leur utilité, c'est de servir le gameplay, donc celui d'un jeu musical, où il faut rentrer un input particulier, ici frappe d'un côté ou de l'autre du bongo, des deux côtés en même temps, ou le clapement de main, puisqu'il y a un capteur de son sur les Bongo Decay. Donc on fait ça quand un symbole qui y correspond, d'une certaine couleur, est au niveau de notre repère, en étant synchronisé avec la musique en fond. Comme dans la famille un peu plus nombreuse des jeux Taiko Master, dont l'équipe derrière serait aussi à l'origine des Donkey Konga d'ailleurs. Au niveau des musiques sur lesquelles on peut jouer justement, on en trouve dans ce premier jeu 32, avec majoritairement de la J-pop, des musiques d'anime et des musiques liées à des jeux. Parmi les autres styles nommés in-game, on trouve télé, qui est un fourre-tout dans lequel on a de la musique de télé-réalité, de Sentai, de théâtre de marionnettes et de drama.
Oh là, ça n'a pas été exporté ça, dis-moi.
Non, effectivement, mais je vais l'évoquer après aussi. À part ça, on a aussi des chansons pour enfants, de la musique latine, heureusement, hein, de la danse traditionnelle et de la musique classique. Il semble que pour toutes les musiques dont Nintendo ne détient pas les droits, il s'agisse de réarrangements spécifiquement produits pour le jeu. J'ai pas rencontré de contre-exemple, mais c'est pas une preuve et c'est avec plaisir que je changerai d'avis dessus si vous savez mieux que moi. J'en ai retenu ici deux en particulier, Kurarinetto Wokowashi Chatta, qui n'est autre que J'ai perdu le dos de ma clarinette.
L'accent japonais.
Merci. Et qui à la fois a de la gueule et me fait taper des immenses barres avec son opa camarado, pa camarado, pa opa opa.
C'est vrai, j'ai pu écouter toute l'OST pour l'émission, c'était fantastique.
Et à côté de ça, on a aussi un medley Mario, du coup, que t'as dû entendre aussi, qui est dans le même style que le Zelda passé.
Ah ouais, avec beaucoup d'inspirations aussi différentes.
Oui, et que je vous conseille du coup si vous avez apprécié ce dernier.
Je me souviens aussi de la version à réarranger de 99 Red Balloon, c'était assez fantastique ça quand même.
Mais t'arrêtes pas de me couper l'herbe sous le pied, Kondo, je suis pas encore là moi.
Je prends trop d'avance, désolé.
Donc, l'arrangement Zelda, il se trouve donc pas dans le premier Donkey Konga. On avance de quelques mois, je rappelle qu'on était en décembre 2003, et on arrive au 1er juillet 2004, où sort Donkey Konga 2. Et là, bingo, au milieu d'une playlist aux prédominances similaires à la précédente, apparaît notre arrangement Zelda. Ensuite, cet arrangement est revenu dans les playlists de Donkey Konga, le premier, à l'occasion de la sortie de ses versions PAL et américaines en septembre et octobre 2004, puisque le premier Donkey Konga était en fait jamais sorti en dehors du Japon jusque-là. Donc pour celle-ci, c'est plutôt les musiques rock et pop qui sont les plus nombreuses, et j'ai retenu à nouveau deux pistes de CBO qui viennent toutes deux en fait de la version européenne. Lady Marmelade, parce qu'entendre chanter des voulez-vous coucher avec moi ce soir dans un jeu Donkey Kong, et par extension Nintendo, c'est franchement amusant.
Oh là, je m'en souvenais même pas de celui-là.
Et après, comme tu l'as évoqué plus tôt, 99 Red Balloons, qui est le meilleur arrangement du titre que j'ai jamais entendu, genre 10 fois meilleur que la version anglaise officielle originale.
Clairement, une très grande qualité, c'est dommage qu'il soit si court.
Ouais, effectivement, mais c'est le cas pour bien d'autres des arrangements proposés. Rapidement, pour finir l'historique de la série, on a ensuite eu Donkey Konga 3 en mars 2005 au Japon, qui contenait, en plus de la trentaine de musiques jouables habituelles, un arrangement 8 bits du main theme de Donkey Konga et 20 musiques composées de morceaux de jeux Famicom, 14 de jeux Nintendo, dont le premier The Legend of Zelda, c'est pour ça que je l'évoque, et 6 de Namco. Et enfin, il y a des versions de Donkey Konga 2 qui sont sorties hors du Japon en mai puis juin 2005.
Et tu nous fais l'historique de l'histoire des Taiko aussi ?
Non, là c'est trop hors sujet quand même. Là il y avait un rapport encore avec Zelda. Je me suis fait plaisir sur les recherches, donc pour pas que ça ait servi à rien, je le fais ressortir ici.
Donnez-lui un bon morceau, il vous fera des recherches d'une heure.
Effectivement. Ouais, désolé pour la longueur. Du coup, je vais juste terminer en disant que Donkey Konga 3 est pas sorti en dehors du Japon, lui. Et que finalement, les playlists des jeux de la série, elles représentent un total de 253 musiques, ce qui, avec selon mes calculs, un peu moins d'un cinquième de doublon, nous donne à peu près 200 morceaux différents jouables.
Ah, c'est dommage que ce soit pas sorti en France, ça.
Oui, la plupart, oui, effectivement, sont pas sortis en Europe, du coup, dans les versions PAL. Et puis, il y en a que 7 qui ont fait le chemin vers un CD officiel, mais le Medley Zelda, au moins, il en fait partie.
Alors, c'est l'heure pour moi de passer ma première de BO.
3 heures plus tard.
Enfin, il était temps. Mais non, mais c'est pas grave, ton explication était très bien, Link. Alors, le morceau que je vais passer risque de spoiler un petit peu si vous n'avez pas fini The Wind Waker. Donc, si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler musicalement, je vous conseille de passer un petit peu le podcast. Donc, actuellement, nous allons écouter une des versions du Ganon's Castle de The Wind Waker. Cette fois-ci, on n'était pas aussi bien que les deux autres morceaux, mais enfin, faut bien s'en écouter un petit peu de ces morceaux-là. Il s'agissait du thème de Ganon's Castle avec la version des bois défendus. Donc comme je l'ai dit avant, il s'agissait d'un morceau de The Wind Waker, qui est donc la fusion du thème du château de Ganon. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que techniquement c'est Ganondorf, donc ça serait le château de Ganondorf, mais enfin... Ganondorf, excusez. Donc en fait, le thème, il s'agit de la montée inquiétante qu'on entend au piano, hein, avec les accords plaqués, qui est tiré donc du thème de Ganondorf... qui est tiré du thème de Ganondorf d'Ocarina of Time, lui-même tiré d'une partie de opening demo, le thème du prologue de A Link to the Past. Donc le morceau est composé par Koji Kondo et arrangé, alors on ne sait pas exactement par qui, je vais vous citer les noms des compositeurs de Wind Waker, il y a Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi et Koji Kondo, mais franchement ça reste un mystère parce que The Wind Waker n'est pas très précis sur les noms des compositeurs pour chaque piste. Donc le morceau apparaît aussi dans Twilight Princess et Breath of the Wild, et alors je dis bien peut-être, Hyrule Warriors, je suis vraiment pas sûr, mais il m'a semblé l'avoir entendu dans une piste, à vérifier. L'autre morceau, il s'agit du thème des bois défendus de The Wind Waker, un des donjons du jeu, qui lui n'a absolument aucun antécédent dans d'autres jeux. En revanche, on retrouve les mêmes accords dans une autre piste de The Wind Waker, celle de l'arbre Mojo et des Korogu, et intitulée sobrement Dekutri Nkorox, c'est-à-dire la traduction littérale en fait. Ouais, les noms des morceaux n'ont jamais été très inspirés dans Zelda, enfin. Donc le morceau s'écoute aussi sur l'île de la forêt, donc en fait cette piste on peut vraiment la considérer comme le thème de l'île de la forêt. Voilà, j'ai passé les deux morceaux parce que je trouvais les deux morceaux cool, il y avait un format 2 en 1, alors j'ai passé les deux à la fois. Voilà, ça c'est fait.
Et je te remercie pas d'avoir pris une version alternative de la musique du château de Ganon, parce que celles-ci, elles sont pas présentes sur les BO officiels du jeu. Donc j'ai dû aller farfouiller dans les fins fonds, dans les tréfonds de l'internet, pour les trouver en téléchargement.
En bonne qualité.
En bonne qualité, effectivement. Enfin, sur YouTube, des fois, c'est déjà de la bonne qualité, mais on essaie toujours de vous offrir le meilleur.
Exactement, bah c'est ça les dessous de Milk Bars, hein. On passe des heures sur internet à aller dans des sites obscurs pour trouver les pistes et les sources. Mais bon, ça vaut pas toujours le coup parce que finalement, The Wind Waker, on a vraiment rien trouvé pour les noms des compositeurs.
Si, on a quelques trucs, mais bon, là, ça servait à rien.
Ouais, bon, on en revient un peu au morceau, du coup.
Vas-y.
Alors, il parvient quand même à la fois à être calme et inquiétant, ce qui est pas toujours donné, hein, clairement, parce qu'en général, les morceaux, on aime les faire épiques avec des grands sons assez impressionnants. Et dans celui-là, on sent que, en fait, tout va bien pour l'instant, mais en même temps, la tension monte, on sait pas trop ce qui va se passer, on n'est pas dans le bien. Alors bien sûr, le calme est simplement géré par les accords plaqués, ça c'est pas le plus difficile. La tension de la musique par contre, elle vient probablement du fait que les deux morceaux ne sont construits sur aucune harmonie. Alors ça y est, ça part dans les termes barbares de solfège, mais j'entends par aucune harmonie que en fait les accords formés dans le morceau ne suivent aucune gamme, majeur, mineur, harmonique ou je ne sais quoi. Pour être plus précis, en fait, la plupart des musiques qu'on écoute en général sont basées sur des gammes, du style do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, des choses comme ça, afin de s'assurer du coup de sonner juste. Et quand il n'y en a pas, en fait, le morceau est constant et imprévisible. On n'a pas vraiment de son sur lequel se rattacher pour être sauf, ce qui est le cas ici. Du coup, il y a une sorte de stress constant, on sait pas où est-ce que ça va, principalement lorsque c'est calme et un peu discret comme ici. D'ailleurs, petite astuce, hein, la musique des bois défendus utilise une bonne méthode pour ne pas sonner faux. Comme les accords sont assez tordus, assez complexes sur ces passages, en fait, ils sont généralement assez dissonants à l'écoute. Donc pour éviter ce problème, le compositeur les a placés très haut dans les aigus, ce qui fait qu'on arrive moins à discerner les notes. Donc le morceau est ainsi moins dissonant, et en plus, c'est encore plus oppressant.
Super bonne idée qu'on doit de leur apprendre ça.
On est là pour faire de la nouvelle génération de sons. Donc si vous voulez faire une musique inquiétante, vous tapez dans les graves, et si vous voulez qu'elle soit oppressante, vous tapez dans les aigus. Ainsi donc, nous passons au prochain morceau, qui est toujours ramené par moi-même, votre fidèle serviteur.
Changement drastique d'ambiance.
Ah oui, complètement ici, parce qu'on passe de l'inquiétant et de l'oppressant à un truc tout mimi, vous allez voir.
Et jovial.
On va écouter un morceau de Link's Awakening. Si vous parvenez à retrouver le titre, félicitations. Mais je vous le dirai après. Petit blind test, à nouveau. Thank you. Alors, thème obscur, hein, vraiment. Il s'agissait du thème de Mr. Right and Christine du jeu Link's Awakening. Alors, pour être précis, c'était celui de Mr. Right, parce que celui de Christine, en réalité, c'est une variation du même thème. Et en fait, ce sont deux personnages secondaires qui participent à la très longue quête des échanges du jeu.
La première dans un Zelda, il me semble.
Ouais. Et donc, pour en revenir à Mr. Right, celui-ci est en réalité un personnage du jeu SimCity, la version Super NES, qui est lui-même tiré du créateur du jeu, Will Wright. C'est donc de SimCity que provient réellement son thème, qui est composé par Soyo Oka. Alors bah, je suis bien content hein, que ce soit pas un thème provenant à la base de Zelda, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver le compositeur tout de suite.
On a un nom. Alors que pour l'arrangeur ?
Ah bah pour l'arrangeur, justement, j'ai aucun nom exact. La piste est tirée d'un album sobrement appelé Link's Awakening Orchestral Arrangement, réalisé intégralement par un seul homme, Jeremy Hassen. Alors, moi, comment on puisse dire, c'est qu'il a fait un sacré boulot, parce qu'il a orchestré l'intégralité de la bande-son de Link's Awakening. C'est-à-dire... 70 pistes, il me semble.
Exception des pistes cachées dans les versions européennes, quand on tapait Moïse ou Lolo dans Link's Awakening, la version Game Boy. Il l'a dit lui-même qu'il allait pas les arranger, crois dans une des descriptions de ses vidéos.
Ah, peut-être, j'ai pas vérifié.
Donc il était bien au courant qu'elles existaient, quoi. Enfin, vraiment, c'est un gros fan du jeu, et son travail, il est juste... fantastique.
Bah c'est incroyable, hein, c'est un vrai travail d'orfèvre. Il a retravaillé même les jingles de 2 secondes. Il en a fait des pistes qui des fois durent plus d'une minute. Hein. C'est assez monstrueux. Et donc sur son site, il explique qu'il a revoué chaque portion du jeu avec la mélodie pour tenter de saisir le contexte de la musique. Donc il me semble, si je me souviens bien, qu'il a passé plus de 1000 heures à faire l'album, qui est assez monstrueux. Donc il doit avoir bien les morceaux en tête à chaque fois. Et à chaque fois, du coup, il imagine la volonté du compositeur derrière chaque piste et il tente d'interpréter la piste dans son album.
En fait, il fait une sorte de rétro-engineering théorique de ce qu'avait l'auteur en tête avant de se limiter aux capacités de la Game Boy.
C'est ça. Il partait du principe que le compositeur avait imaginé la piste pour un orchestre et qu'en fait il avait fait une version chiptune pour Link's Awakening, parce que Link's Awakening pouvait pas passer d'orchestre. Et donc son boulot en fait était de retrouver la version orchestrale imaginée par le compositeur. Donc ouais, vraiment c'est un travail d'investigation assez exemplaire, hein, même si le boulot derrière est d'autant plus monstrueux.
Et ce qui est génial aussi, c'est que genre dans les descriptions de chacune de ces pistes, il explique le processus qu'il y a eu derrière, pourquoi il l'a fait comme ça, ses inspirations, enfin... Il te donne les clés pour comprendre sa musique et en quoi elle est fantastique en fait.
Mais oui, c'est vraiment monstrueux comme travail. En même temps, quand il a passé plus de 10 heures sur chaque piste, j'imagine qu'il doit bien les connaître après, qu'il doit y avoir un sacré travail derrière. D'ailleurs, chacune d'entre elles. Et donc, dans l'album, on sent pas mal l'inspiration de JRPG, du style Final Fantasy, les chronos, et je dirais même Okami sur certaines pistes. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai écouté ce thème, il m'avait tapé dans l'oreille parce qu'il me faisait penser au thème de la base du premier Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu et rouge. Et du coup, après vérification, il se trouve que l'inspiration vient en fait de ma piste préférée de Final Fantasy VII, et j'ai nommé Descendant of Shinobi, qui est le thème du coup de la ninja, je me souviens même plus de son nom, honte à moi, mais donc qui est une piste que je trouve excellente sur Final Fantasy VII. Donc je vous recommande chaudement d'aller l'écouter.
On va rester dans le même style de musique, mais avec quelque chose de plus calme, de plus relaxant, comme le dit lui-même l'arrangeur, Juke, pour sa version du thème du village d'Elimis. Thank you. C'était donc un arrangement du thème du village d'Elimis de Breath of the Wild, composé par Yasuaki Iwata, arrangement par Juke ou Juke Remix, un musicien semble-t-il allemand spécialisé dans le remaking de musique de jeux vidéo et plus particulièrement de celle de Zelda. Il a d'ailleurs sur son Bandcamp un album de 9 pistes nommé Relaxing and Beautiful Zelda Music Volume 1, dans lequel il a sans doute compilé ce qui selon lui constitue ses meilleurs travaux sur la série. C'est gratuit, enfin vous donnez ce que vous voulez, donc pas d'excuses si vous appréciez le morceau passé. D'ailleurs, on le trouve dedans, en compagnie de 3 autres réarrangements de Breath of the Wild, un du thème des relais, un de celui du village d'Ekarai, et un de celui du village 2-0.
Ah, il n'a pas fait de version de la forêt Korogu ?
Il me semble pas.
Ah, c'est bien dommage.
J'invite les auditeurs et les auditrices à aller vérifier. Une petite technique pour les rediriger vers l'artiste.
Bah écoute.
Du coup, ces réarrangements de musique de Breath of the Wild, j'ai remarqué qu'ils avaient tous un truc en commun, c'était de citer d'autres thèmes de la série. Pour Elimis, vous l'avez peut-être entendu, on a le village Cocorico et la berceuse de Zelda. Là, t'as de la chance que je t'ai interrogé juste à mon précédent morceau, Kondo, parce que sinon, je l'aurais fait encore, je pense.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, là, t'avais plus de chances de réussir, honnêtement.
Ouais, honnêtement, c'était plus simple, en vrai. Mais j'ai pas assez écouté en détail, du coup, parce que tu m'as...
Parce qu'on parlait de choses diverses et variées pendant que vous écoutiez le morceau...
Avec un bon verre de lait.
Tout à fait. Pour l'arrangement d'Ekarai, on a la forêt Kokiri, la berceuse de Zelda et l'île de l'Aurore. Pour les relais, le chant d'Epona. Et pour E-Zero, Juke a listé lui-même en description de son arrangement pas moins de 12 thèmes de la série repris dedans. Parce qu'en fait, il l'a réalisé en reprenant le concept musical de Zero, mais en voyant plus large. Pas juste un village inter-village, mais un village inter-Zelda.
Oula! Mais attends, il dure combien de temps le morceau ?
Non mais pas très très longtemps en fait, mais ils sont hyper bien mêlés les thèmes, et j'espère que ça vous donne envie de découvrir comment il les a mélangés, parce que personnellement c'est ce qui a fait une grande partie de mon plaisir. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, et parce que j'espère que votre consommation musicale se limite pas à du Zelda, il a arrangé en dehors de cette série du Diddy Kong Racing, du Sea of Thieves et du Kingdom Hearts. C'est une liste non exhaustive, donc allez voir vous-même le reste.
Pour le prochain morceau, on parle de quelque chose d'un peu plus intense, d'un peu plus émotif. Nous allons écouter Acts of Courage. C'était beau, c'était intense, c'était Acts of Courage, un thème tiré de Twilight Princess. Il s'agit en réalité du thème de Colin, un des garçons du village natal de Link, qui souhaite devenir aussi courageux que lui. Donc, ce qui explique le nom de la piste, Acts of Courage, même si en réalité dans la bande-son Zelda, le morceau s'appelle Courage, actuellement renommé Acts of Courage, donc je vais y arriver. par Brock Ewitz. Je vais revenir un petit peu après sur lui. Mais la musique a été réalisée pour une œuvre de Major Link. Major Link, c'est un animateur qui réalise des courts-métrages à partir de modèles 3D de personnages de l'univers Zelda. Donc sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver des courts-métrages en tout genre, notamment par exemple des scènes marquantes de Ocarina of Time ou de Twilight Princess.
Dernièrement, j'ai beaucoup aimé, bah c'est sa dernière je crois, celle de quand Link reçoit le Rubis Goron de la part de Darunia.
Oui.
Elle est assez marrante. Même si j'ai un peu un problème général avec ces vidéos, c'est que je suis en plein dans la vallée dérangeante, genre ces persos, ils ont des émotions faciales très bizarres.
Ouais, bah c'est-à-dire que les modèles 3D des personnages de Zelda sont pas toujours faits pour représenter des émotions et des caractères très, très détaillés.
En fait, ils ont l'air humains, mais pas tout à fait, il y a des trucs qui passent pas trop, quoi.
C'est ça, il y a un petit truc gênant.
Oui.
Mais après, il faut noter que le travail est très bien fait, hein. Clairement, parce que le principe de son travail, c'est surtout de renforcer la narration des histoires de Zelda, sachant que la saga met souvent un petit peu de côté la narration, du coup...
Ah oui, non, mais il a abattu un travail, je pense, assez colossal au total sur sa chaîne. Sachant que je pense qu'il est tout seul pour l'animation, et tout seul faire ça, c'est très impressionnant.
Ouais, si je me souviens bien, c'est son avant-dernière vidéo, qui est une version originale du combat final de Twilight Princess, avec des scènes et des situations inédites. Et c'est d'ailleurs de ce court-métrage qu'est tirée la musique qu'on vient d'écouter, avec un contexte bien différent. Donc du contexte de Colin, le petit garçon qui voulait devenir comme Link. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est clairement un personnage qui est sous-coté. Je dis ça, je dis rien. Et la musique, comme la quasi-totalité de celles des animations de Major Link, sont donc de Brock Ewitz, qui est un compositeur de musique de film qui se spécialise dans les musiques d'ambiance avec un fond sonore très travaillé, comme on peut l'entendre hein, notamment en fond actuellement. Il a fondé le collectif Stories in Sound, un collectif de 4 compositeurs de films et d'œuvres audiovisuelles en général. Donc je vais vous citer la présentation qu'il fait de Stories in Sound sur son site officiel. Stories in Sound a pour objectif d'emporter son audience dans un voyage émotionnel avec des musiques ancrées dans la lumière de chaque histoire. Finalement, ça décrit très bien son style de musique, comme on a pu l'écouter à l'instant. Il est très doué pour faire évoluer un ressenti au cours de ses morceaux, notamment avec le duo piano-instrument à cordes, que j'appelle personnellement le duo gagnant. Hein.
Ça passe.
Ah bah ça marche très bien, on a pu l'écouter tout à l'heure avec le morceau de The Wind Waker. Personnellement, je trouve que c'est un duo très réussi. D'ailleurs, je finis avec une petite anecdote. Il a récemment réalisé un stage chez Remote Control Production, un studio de musique de film qui ne vous dit peut-être rien, mais je vais vous mettre la puce à l'oreille en vous disant qu'il a été créé par Hans Zimmer. Hans Zimmer, bon, c'est un compositeur de musique de film. Hein.
Là, si vous voyez toujours pas, on peut rien pour vous.
Ouais, ah bah si vous voyez toujours pas, je vais vous donner quelques noms. Hein. Il a fait, bon, trois fois rien, il a fait Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, la trilogie des Dark Knight, la plupart des films de Christopher Nolan aussi, et plus d'une centaine de films hein, sur, je crois, plus de 30 ans de carrière, il me semble. Voilà, donc c'est un monstre dans le domaine. Et Remote Control Production, donc c'est un studio avec pas mal de compositeurs qui eux ont par exemple composé, alors j'ai pas le nom des compositeurs mais je peux vous dire qu'ils ont par exemple travaillé sur Shrek, Iron Man, Armageddon, et ils ont aussi fait des pistes de jeux vidéo tels que Gears of War 2, Modern Warfare 1 et 2, Assassin's Creed 2 et d'autres.
Ils ont pas bossé sur que des petits projets quoi. Le morceau qui suit est mon avant-dernier, mais le seul qui me reste et qui dure pas 20 secondes, alors je vous encourage à bien profiter de ce remix du Chant des Tempêtes par Fusion 42. We'll be right back. Eh oui, je vous ai encore ramené quelque chose d'assez particulier, hein. Et unique aussi, parce que je suis pas certain qu'il existe beaucoup d'autres versions lofi reggae de musique de la série.
Ouais, et en plus, surtout qu'il a fait une version lofi reggae d'un morceau qui est en 3 temps, alors que le reggae c'est toujours en 4 temps.
Et avec une basse qui turbo-tue comme ça, avec ses glides descendants de la mort, elle est géniale la basse.
C'est fantastique. Ouais, mais tout est fantastique en fait dans cette piste.
Mais je kiffe trop ce morceau, il a une sorte d'atmosphère très jungle tropicale, je trouve en fait. Pour son humidité, la chaleur moite qui s'en dégage. Ce qui est très bien pour représenter l'association de ce thème, le chant des tempêtes qui apporte la pluie, et de ce style de musique, le reggae qui lui amènerait le chaud, mais c'est une interprétation très personnelle.
Non, mais c'est intéressant. Hein.
Donc comme t'as eu une pause tout à l'heure, Kondo, dis-moi quel autre thème se dissimulait dans ce remix.
Bah ouais, bah là ça va, tu ne m'auras pas ce petit jeu, c'était le thème du chant de Saria, je me ferais pas avoir.
Ouais, bon, c'était très simple. Hein. Pour ce qui est de l'arrangeur maintenant, il est pas seul en fait, puisque Fusion 42 c'est un groupe qui serait états-unien. Leur description sur SoundCloud les présente comme des créateurs indépendants de musique électronique et de remix de musique de jeux vidéo, en leur attribuant pour style principaux le lofi pop, la synthwave, la vaporwave, donc quelques genres qu'on a évoqués précédemment.
De la C-punk peut-être ?
Non, pas là.
Ah, c'est dommage.
Et pour ceux auxquels ils s'essayent de temps en temps, l'EDM et la trance. Mais on peut pas les limiter à ça, parce que par exemple, leur dernier morceau, c'est une super cool reprise Liquid Drum and Bass, seul de leur compte, du thème de Marble Zone du premier Sonic.
Oh là, là j'entends Sonic et Drum and Bass dans la même phrase. Tu attires mon attention, j'irai écouter ça tout de suite.
Gotta go fast. Retenez donc surtout qu'ils font de la musique électronique, des remixes jeux vidéo et qu'ils s'inscrivent dans la mouvance lofi. Enfin, vous pouvez aussi retenir qu'ils ont fait beaucoup de Zelda et du très très bon, parce que je pense assez fort que ça vous intéresse. Il y en a au moins un chez eux qui doit être très fan de la série en tout cas, parce qu'ils ont même réalisé un mix de 40 minutes de lofi Zelda, dans lequel ils ont bien sûr mis ce lofi reggae.
Oh là, si c'est de la autant de qualité, c'est vraiment du pur bonheur là.
Bah, le truc c'est que c'est assez inégal, mais il y a plein de petits artistes qui ont participé et c'est pratique pour en découvrir de nouveaux, et ça m'aura peut-être été utile pour le podcast, on verra, affaire à suivre.
On sait jamais.
Va falloir être attentif pour le dernier morceau que j'ai apporté, celui de BO, parce que ça va aller vite. On en parle plus longuement juste après.
Déjà ? J'ai même pas fini mon popcorn.
Ah bah, tant pis, hein. Écoute, j'allais pas l'allonger de manière artificielle, juste pour ton petit plaisir. Il s'agissait de la balade du Poisson du Vent, composée par Koji Kondo, musique intradiégétique de The Legend of Zelda Majora's Mask, donc qui est à l'intérieur de l'univers du jeu, les personnages peuvent l'entendre. Donc on la présente dans le jeu comme un vieux tube de la première génération des Indiegogo, le groupe Zora qui est censé se produire à Bourg-Clocher le jour du carnaval du temps. Et c'est Link qu'on entend jouer ce morceau après que Toto, le manager du groupe, lui a demandé au Milk Bar, chez nous, qu'il dit réputé pour la qualité de ses concerts, hein. On s'est pas installé là par hasard.
Évidemment. Donc ce que vous venez d'écouter, c'est vraiment une performance en live.
Voilà, chez nous.
On peut les applaudir d'ailleurs.
Directement, c'est génial. Donc Toto a demandé à Link s'il pouvait faire un test son pour voir ce que ça aurait donné, parce qu'à cause de la perte de voix de la chanteuse du groupe, la performance prévue doit être annulée. Ce que cette musique cache, c'est une double référence à Link's Awakening. La première, elle se situe dans son titre. Parce que si, comme je l'ai dit, dans Majora's Mask, elle s'appelle la balade du poisson du vent, dans Majora's Mask 3D, c'est la balade du poisson rêve. Ce double nom vient du fait que Véronique Chantel, la traductrice pour le français de Link's Awakening, a fait un choix étrange en choisissant poisson rêve pour une créature qui, en toute logique, aurait dû s'appeler poisson du vent. Comme dans toutes les autres langues, japonais, anglais et allemand. En plus, il spoil le jeu, quoi. Enfin, autant j'adore sa patte dans le jeu à Véronique Chantel, autant là, je peux pas y voir autre chose qu'une mauvaise idée. Je sais pas ce que t'en penses, Kondo.
Ça spoil un peu, mais enfin, maintenant tout le monde sait que Link's Awakening.
Ouais, mais à l'époque, non, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Pour moi, c'était un mauvais choix, en tout cas. Ensuite, du coup, pour Majora's Mask, Jean-Baptiste Fleury ou Nicolas Gouriot, les deux traducteurs du jeu pour le français, n'ont pas dû voir de référence à Link's Awakening dans le morceau, donc ils y sont allés littéralement avec la balade du poisson du vent. Chose qui a ensuite été corrigée dans le remake sur 3DS pour qu'on comprenne le lien avec Link's Awakening. Mais c'est pas le seul de lien. Le second, il ressortit à la composition du morceau, puisque ce que jouent les trompes de Link Mojo est très similaire aux 5 notes du thème de la cloche des algues, le troisième instrument des sirènes dans Link's Awakening. Note que l'on retrouve jouée par cette cloche dans les versions de la balade du poisson rêve que vous pouvez écouter au sommet de la montagne avec. J'ai pas dit identique parce qu'il y a une note qui est pas la même. Dans Link's Awakening, on a La, Ré, Mi, Si, La, mais dans Majora's Mask, c'est La, Ré, Fa, Si, La.
Si vous voulez écouter la piste du troisième instrument de Link's Awakening, je vous invite à aller écouter l'album de Susukun Ranarata narrateur, sobrement appelé Link's Awakening Orchestral Arrangement, qui la contient. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, il a essayé de trouver des sons d'instruments vraiment uniques pour chacun des instruments de la sirène, en mélangeant plusieurs instruments qu'on connaît pour en faire un peu magique, un peu onirique, quoi. Et c'est tout à fait génial. Donc, pourquoi il y a une note qui change ? Il y a pour ça une explication liée aux possibilités offertes par les instruments mis à disposition du joueur, qui permettent de jouer sans combinaison de touches, parce qu'en réalité, on a accès à plus d'une octave, uniquement Ré, Fa, La, Si, et un Ré plus aigu. Or, on ne demande jamais aux joueurs de faire des combinaisons de touches, je pense qu'il y en a même plein qui savent même pas qu'on peut le faire, c'est purement optionnel pour s'amuser. Donc le mi du thème original, ainsi indisponible, a donc été remplacé par la note au-dessus la plus proche, un Fa. Ce qui rend la musique plus dissonante, puisque la note qui le suit est un Si, ce qui crée entre les deux notes un intervalle de 3 tons, aussi appelé triton, réputé pour être justement dissonant. Ce qui va pas poser particulièrement de problème pour un morceau lié au jazz qui a l'habitude de jouer avec les dissonances et notamment le triton avec la note bleue.
Ouais, notamment que dans les gammes jazz, le triton est souvent utilisé pour donner un peu de relief au morceau.
Exactement. En plus, pour une référence à Link's Awakening, ça va bien puisque le triton est un des liants musicaux principaux entre les donjons du jeu. Voir à ce sujet l'article de Jason M. Yu sur la musique des 10 donjons disponible dans une version traduite en français sur le site Puissance Zelda. Et pour rien vous cacher, cette dernière précision est un peu d'auto-promo, dédicace à Jumpman d'ailleurs tant que j'y suis.
Il fait sa pub. Ça c'est malhonnête, il faut savoir que c'est lui qui a traduit hein.
Ben non, mais je suis pas malhonnête justement, je l'avoue. Donc je l'ai fait avec Jumpman ce travail. Mais tous les crédits vont pour Jason M. Yu, sans qui il y aurait jamais eu cet article.
Alors ça y est, c'est l'heure, on arrive au dernier morceau de ce podcast. On ne peut pas faire un podcast éternellement évidemment, il faut qu'on aille se reposer et travailler pour le prochain. Mais en attendant, je vais vous laisser avec le petit morceau hors sujet. Comme à chaque épisode, nous allons finir le podcast avec un morceau hors sujet. Et je ne vous dis absolument rien sur ce morceau, je vous laisse découvrir et prendre beaucoup de plaisir à écouter cette superbe musique. Bon, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a adoré, vraiment.
Oui, un morceau incroyable. Mais dis-nous, bah, il sort d'où ?
Ah bah clairement, bah déjà, ça sort pas de Zelda, pour tout vous dire. Surtout que je vous imagine avoir écouté le morceau en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ils nous passent un morceau de rock d'animé dans le Milk Bar ? Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Bah, ils ont dû quand même capter quelque chose qui ressemblait à ce qu'on a pu entendre dans les Zelda.
Ah bah ouais, hein. À mon avis, au bout de 30 secondes, ça a dû être le tilt. Effectivement, à partir de 30 secondes environ dans le morceau, il s'agit du thème de la Vallée Gerudo. Et donc, en fait, ce n'est pas le morceau qui fait une référence à la Vallée Gerudo, parce que en réalité, Ocarina of Time est sorti après l'œuvre de quelle provient le morceau, qui est sorti, lui, si je ne me trompe pas, entre 91 et 92. Cette œuvre, il s'agit d'un animé japonais, comme vous avez peut-être pu le deviner, qui s'appelle Hono no Tokyuji Dodge Danpei. Superbe accent. Donc c'est un animé japonais de sport publié entre 1991 et 1992 où l'on suit l'histoire de Danpei Ishigeki, le fils du meilleur joueur de dodgeball au monde. Alors le dodgeball, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport réel, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est la balle aux prisonniers qu'on fait quand on est petit, mais version sport d'adulte.
Version badass.
C'est une balle aux prisonniers, voilà, pour vrai sportif. Et donc ce brave Danpei souhaite à son tour être le meilleur joueur du monde. Évidemment, on est dans un animé de sport et donc le personnage principal souhaite être le meilleur joueur du monde de son sport. Le thème qu'on va écouter est le thème d'Arashi Mido, le chef de l'équipe Black Armors, qui je suppose est l'équipe de Danpei, hein, l'équipe principale donc. L'autre nom du morceau qui a été donné sur internet, c'est pas un nom officiel mais c'est comme ça qu'on le trouve plus facilement, c'est Spin Tornado Fot, qui donc est un des super coups d'Arashi, parce que comme dans n'importe quel animé sportif, les personnages ont des super coups uniques que seuls eux peuvent faire et que même un gosse peut faire, évidemment. Bon, enfin voilà, ça reste un animé assez classique, il a l'air super, hein, mais bon, assez cliché.
Ouais, c'est un pur Neketsu, quoi.
Exactement. Et comme la plupart des Neketsu, bah il y a de la bonne musique bien épique, du bon rock avec d'une bonne guitare électrique.
Et là, ce morceau, il est particulièrement vraiment vraiment réussi.
Yes.
Et du coup, il nous vient de qui ?
Et bah justement, il nous vient de Ryuichi Katsumata, un compositeur qui a par exemple fait Tatsuki the Samurai Cop, The Wonderful Galaxy of Oz, deux autres animés japonais. Alors ces noms, personnellement, m'ont pas dit grand chose, je suis pas exactement un spécialiste là-dedans, mais un nom qui devrait plus vous dire quelque chose, il a été en charge de la bande-son de l'animé Initial D.
Ah.
Animé de course de voiture réputé pour ses musiques d'Eurobeats de grande qualité. Enfin, pour chacun ses goûts, hein. Tout le monde n'aime pas, mais voilà, il est assez réputé pour ça sur internet.
Musique de mèmes, hein, surtout.
Oui, donc certaines sont devenues des mèmes. Il y a Déjà Vu, Running in the 90s, ou encore Gas, Gas, Gas. Mais par contre, ces pistolets sont pas des travaux de Katsumata.
Oh.
Ah, c'est bien dommage, mais bon, au moins on sait qu'il a fait autre chose de bien. Donc ce sont des travaux qui ont été réalisés pour la version occidentale de l'anime, parce que donc l'anime a été localisé en Occident, donc en refaisant l'intégralité, je crois, de la bande son. Et si je me souviens bien, ces pistes de Robits ont été composées par plusieurs groupes tous italiens. Et d'ailleurs, j'ai une petite fun fact sur Katsumata. Donc il a fait pas mal de travaux sur internet, il a par exemple fait un album de reprise de F-Zero X. Qui est de grande qualité, hein, du très lourd, je vous invite à l'écouter. Mais surtout, il a arrangé l'intégralité de l'album The Legend of Zelda Ocarina of Time Hyrule Symphony. Vous le voyez venir, c'est un album qui contient 13 pistes provenant d'Ocarina of Time, dont évidemment le thème de la Vallée Gerudo.
Ah, c'est excellent.
La fameuse Vallée Gerudo composée par Koji Kondo, et qui donc est inspirée du travail de Katsumata sur la piste qu'on vient d'écouter.
Ouais, parce que autant le dire clairement, il y a quasiment aucune chance que ce soit une coïncidence avec si peu d'intervalle entre les deux, que les deux viennent du même pays, qu'il y ait une aussi grande ressemblance mélodique.
Ouais, globalement, l'inspiration est quasiment certaine.
On n'a pas trouvé de source officielle qui l'affirmait, mais voilà.
Le riff de guitare de Dodge Danpei est clairement repris dans la Vallée Gerudo. Donc je me demande un peu la tête qu'il a fait quand il a découvert que son morceau a été repris. Mais bon, ça devait être assez drôle.
Ouais, mais ça se trouve, il lui avait demandé Kondo avant.
Ah, peut-être, on ne sait pas. Faudra faire de l'investigation là-dessus une prochaine fois. Et enfin, pour finir, l'anime a été adapté en jeu vidéo. Il y a eu 6 jeux qui sont sortis en 1992 sur Famicom, Super Famicom, Game Boy, Game Gear, Mega Drive et PC. Et il y a même eu une suite au jeu Famicom en 1993. Donc je saurais pas dire si les jeux sont bien ou pas, j'en ai testé aucun et puis ils sont tous vraiment différents.
On a qu'un mois pour préparer un épisode, hein.
On s'excuse. Par contre, je peux vous assurer que la bande originale des versions Famicom et Super Famicom est top. C'est un bon chiptune des Famicom, on les aime. Eh bien ça y est Zenik, on a passé le dernier morceau de ce deuxième numéro du podcast. Il est donc temps de dire au revoir à nos auditeurs.
Ouais, mais avant faut faire une petite annonce, parce qu'à partir du prochain numéro on compte passer non plus 9 musiques mais 10. ça fera un nombre rond comme ça.
Super, ça vous fera en plus du podcast en plus, un pur plaisir.
Et il faut leur en parler aux auditeurs et aux auditrices parce que pour ça on veut faire appel à eux.
Et oui.
On se dit que ça peut être super sympa de vous faire prendre une part active dans le podcast et partager davantage avec nous, il n'y a pas de raison que ce soit que dans un sens. Donc, vous pourrez nous proposer des arrangements à faire écouter dans le podcast par courriel à milkbars.podcast@gmail.com ou sur Twitter, @milk-bars, en message privé pour pas gâcher la surprise. Le top serait après de vous avoir dans le podcast avec nous en vocal le temps d'échanger à propos du morceau, mais sinon vous pourrez vous contenter d'un texte écrit d'accompagnement sur comment vous avez découvert la musique, pourquoi vous l'appréciez, etc. C'est que des idées, sentez-vous libre de dire ce que vous voulez, quitte à être un peu hors sujet.
Comme ça, ça nous fera découvrir des choses aussi, ce sera des découvertes mutuelles, ce sera cool. Donc on espère que vous serez nombreux à nous proposer.
Ouais, malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui pourra passer à chaque fois, mais bien sûr, on regardera ce qu'on a déjà reçu comme proposition pour les fois suivantes. Puis on essaiera peut-être d'alterner entre quelqu'un qui propose un texte et quelqu'un qui propose de participer en vocal, on verra en fait. On sait pas du tout si on aura beaucoup de propositions ou pas, donc voilà, tout ça c'est à voir. Mais en tout cas, on espère bien pouvoir faire participer un auditeur ou une auditrice dans le prochain numéro.
C'est une idée qui nous plaît bien, on espère qu'elle vous plaira bien aussi. Donc on en profite pour mettre ça en place maintenant.
Et je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, et on va pas faire durer le podcast plus longtemps. Je pense qu'on a dépassé la durée du premier là, on verra si je me trompe ou pas.
Ah, on a dû dépasser l'heure, ouais, mais bon, c'était sympa. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Yurik de s'être occupé de la patte graphique du podcast, et on espère que vous serez nombreux à nous attendre pour le prochain épisode, qui devrait sortir, si je ne me trompe pas Zelink, le 4e vendredi du mois.
Voilà, à partir de maintenant, on va partir sur ce rythme-là, en espérant le tenir, mais on est motivé, on a quand même un peu de temps pour s'occuper de ça, on a la passion, donc on espère que ça fonctionnera, il n'y a pas de raison. Et du coup, bah, à la prochaine, et puis portez-vous très bien d'ici là.
On vous dit à bientôt.
Ciao, ciao, ciao.
Avis aux véritables connaisseurs, venez goûter la nouvelle cuvée Romanie, un grand cru auquel aucun lactophile ne saurait résister. Quel que soit l'événement, la cuvée Romanie ne laisse personne indifférent. Avec la cuvée Romanie, un peu de lactose, ça s'arrose. Appellation d'origine contrôlée, trop légère de contrefaçon.